Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Je me suis souvent senti heureux au théâtre. Je me suis souvent senti bouleversé, fier, en colère, inculte, floué, révolté, jaloux même. Je me suis senti honteux, je me suis senti nauséeux, je me suis même senti mourir une fois, mais j'avais une méchante gastro et je devais contracter les abdos pour rendre le siège dans son état d'origine. Mais il y a un sentiment qui reste rare dans mon expérience de spectateur et qui m'a travaillé ce dimanche. Je me suis senti chanceux. Alors, ne vous méprenez pas, hein. Aller au théâtre, même pour se taper un long seul en scène de 7 heures en allemand, c'est une chance. Il faut se le payer, se rendre disponible à l'heure, oser entrer dans ces lieux qui se la pètent franchement, s'y installer, puis bah, rester. Mais je parle pas de cette chance-là. Ce dimanche, je me suis senti chanceux parce que j'avais l'impression de vivre quelque chose d'historique. Et chanceux parce que même si on était 4000 dans la salle, que le spectacle va tourner pendant environ 3 siècles, ben ça reste rare de voir une bonne comédie musicale en France. Et puis, il faut que je vous dise un truc, c'est que pour moi, Starmania, c'est pas n'importe quelle comédie musicale. Ça fait 6 ans. 6 ans que je ne suis plus la même personne. À l'époque, je suis là, paré d'un superbe rideau d'acné, et je me cramponne à mon micro tel François de Rugy à son homard pour interpréter devant une salle aux yeux humides ma plus belle version du blues du businessman.
J'aurais voulu être un artiste.
Oui, je chantais, je jouais, je charmais. Enfin, non, mais je chantais, je jouais, quoi. Autant vous dire que dans la peau de Zéro Janvier, le dictateur phare de Starmania, avec mes 3 cheveux que je plaque comme une affiche au mur, eh ben, j'agite les foules. Je déclame des discours de néo-nazis, les yeux révulsés devant une chorale en randonnion. C'était l'âge d'or. J'avais rendu à la ville de Daniel Balavoine une promesse de gloire éternelle. Je ne touchais plus le sol parce que dans chacun de mes déplacements, j'étais porté par la foule. Je tutoyais les anges. J'étais une étoile, l'étoile du berger, Michel. J'étais le pianiste de la groupie du pianiste. J'étais complètement hors sol, en fait. Parce qu'après, j'ai vu les vidéos et puis bah, je me suis empressé de changer de coupe d'abord, et puis bah, de traitement pour l'acné ensuite, et puis bah, après de vocation, hein, parce que bah, ça pouvait plus durer. Alors voilà, il fallait qu'un Normand venge un autre Normand pour rendre à Starmania un peu de sa superbe. Et ce Normand, bah, c'est pas n'importe qui, c'est Thomas Joly. Et ça rime.
Je suis Thomas Joly, je suis acteur, metteur en scène, notamment du dernier Starmania. En ce moment, la scène musicale.
Ce qui est intéressant, c'est que Thomas Joly se définit souvent comme un enfant du théâtre public. On lui doit des adaptations monumentales de grands classiques, du Sénèque, du Shakespeare, du Marivaux. Et comme Thomas Joly a la même notion des limites qu'un adolescent en a de l'hygiène, eh ben, il ne s'est pas arrêté là. Et vas-y que j'adapte des opéras, et vas-y que je fais des pièces de 24 heures, et vas-y que je m'occupe de mettre en scène la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, et c'est long à dire. Mes projets monumentaux, au budget pharaonique ou pas, dans chacun de ses discours, dans chacune de ses interviews, le metteur en scène Canet le répète, il est un enfant du théâtre public.
Un enfant du théâtre public, ça veut dire que moi, mes parents, on habitait à la campagne, on n'allait pas tellement, même pas du tout, au théâtre, à l'opéra, on allait peut-être une fois ou deux au cinéma par an. Et donc, enfant du théâtre public, c'est que j'ai bénéficié de tous les, eh bien, de toutes les, comment dire, formations gratuites proposées par ou les villes, ou les départements, les régions, ou l'État, les options théâtre, les conservatoires, ce genre de choses, qui m'ont permis en fait d'apprendre mon métier d'acteur sans jamais avoir à débourser un centime, sans venir à Paris aussi, puisque je n'y habite pas, et pas encore. Et voilà, de pouvoir en fait bénéficier de ce que le théâtre public offre.
Alors c'est le moment un peu didactique où vous allez apprendre des choses, et puis bah fun fact, moi aussi, car Wikipédia. En France, on distingue deux modèles de théâtre. Le théâtre public qui reçoit des subventions du ministère de la Culture, genre 10 balles par an, et puis bah le théâtre privé qui dépend de sa billetterie, là où les places sont globalement plus chères et accompagnées de confiseries, de vins et de goodies. Alors le théâtre public, c'est un théâtre qui peut prendre des risques dans sa programmation, enfin... techniquement, parce que, est-ce qu'il le fait ? Bon. Il peut donner carte blanche à des metteurs en scène, des metteuses en scène, des jeunes compagnies. Alors les saisons sont super serrées, hein. On laisse grand max une semaine ou deux des pièces à l'affiche parce que bah, les scènes des théâtres publics, c'est comme les jouets, on prête. Et puis il y a le théâtre privé qui, grosso merdo, va mettre en avant des comédiens stars comme Josiane Balasco, Pierre Arditi, Fabrice Lucchini, mais aussi faire durer pendant des semaines, des mois, les mêmes pièces. Parce que tant que ça remplit, comme le dit le proverbe de... Jésus peut-être ? Je sais pas. Alors évidemment, tout ça, c'est une grosse caricature. Hein. Parfois, on a des grosses stars dans le public comme Isabelle Huppert, parfois on a des metteurs en scène consacrés dans le privé comme Alexis Michalik, parfois on a des gens de gauche au théâtre privé, et parfois même, on reste éveillé jusqu'à la fin des pièces dans le théâtre public. Bon, maintenant, Thomas Joly, c'est comme une Toyota, c'est un hybride.
Là, c'est vrai que Starmania est une production privée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un groupe... de producteurs de spectacles, en l'occurrence Fimalac, et à l'intérieur du groupe Fimalac TS3, Thierry Suc Productions, qui donc ont financé sur leurs fonds propres cette création et qui donc du coup entre dans une logique de rentabilité, enfin en tout cas de moins de se rembourser, peut-être pas forcément de faire des bénéfices, mais au moins de rembourser l'argent qu'ils ont investi dans cette production, et ils en ont investi beaucoup. Dans le public, on peut pas trop parier, d'ailleurs il n'y a même pas une question de pari, il y a une question d'abord de pouvoir donner de l'argent à la création sans forcément un retour financier, c'est ce à quoi sert la subvention. On n'est pas dans des logiques de rentabilité, on n'est pas dans des logiques de résultats ou de réussite même publique. Henri VI qui durait 18 heures, voire même HSR3 qui durait 24 heures au mois de juin. Ça, je peux le faire dans le public parce que je n'ai pas de logique de rentabilité derrière. Je peux vraiment être dans un objet atypique. Le privé n'aurait jamais pu faire Henri VI Richard III. A contrario, Starmania est une œuvre beaucoup trop lourde pour un théâtre public. Il faudrait peut-être s'adresser à l'opéra. Mais en théâtre, c'est impossible parce que c'est beaucoup trop lourd techniquement, c'est beaucoup trop lourd même artistiquement, le nombre de personnes sur le plateau. On est 30 artistes, la technique de son, etc. C'est pas nos métiers.
Alors Starmania, c'est quoi ? C'est une comédie musicale française dans un futur proche imaginé en 1979 par Luc Plamondon et Michel Berger. C'est un monde où les écrans sont omniprésents, les écarts entre les richissimes et les plus précaires sont plus criants que jamais et où le star system est à son apogée. On a la menace d'une grosse dictature sommaire, celle de 0 janvier, un gars qui construit des gratte-ciels moches. Tiens, tiens, ça rappelle la Clémentine qui a servi de président au pire pays du monde, ça. Et donc, face à ce type, on a des attentats, des agressions et pire, des gens qui chantent des actualités en faisant des rimes. Donc c'est le conflit, il y en a qui disent oui, on est les maillots jaunes, les autres c'est les sans maillots. Ah ouais, vous êtes sans maillot, bah on va faire la guerre. Alors que la solution depuis le début, c'était l'amour. Tout ça, on peut pas le porter sur scène sans un minimum de génie, parce qu'on a beau chanter Stone, le monde est stone, si on pouvait éviter de perdre le public en 20 minutes, bah ce serait chouette. Et ça tombe bien, parce que Thomas Joly, il adore foutre des faisceaux de lumière survoltés, des gros effets spéciaux, un petit peu artisanaux qui mettent en valeur la machinerie et les petits métiers du théâtre, et tout ça c'est punk, c'est rock'n'roll et ça plaît aux Jones. Et aussi il aime bien les gros décors qui te posent le cadre en un regard. Par exemple, quand il a mis en scène le dragon d'Evgeny Schwartz, le quatrième mur, c'est-à-dire le mur entre les gens sur scène et les gens qui dorment en face, enfin nous quoi, enfin je veux dire c'est pas un mur en placo quoi, le quatrième mur donc était partiellement recouvert d'un immense tissu d'écailles noires troué au milieu, parce que bah, sinon du coup on voit rien, et ce trou c'était quoi ? Et bah c'était la forme de l'œil du dragon. C'est pas con, hein. Et puis dans Fantasio d'Offenbach, on est en plein 19e, c'est l'avènement de l'électricité, de la photo et des gens portent des chapeaux ridicules. Alors Thomas Joly, il met ce fond de scène qui s'ouvre et se referme comme le diaphragme d'un appareil photo pour laisser passer ses personnages. Pour Starmania, il a travaillé avec Emmanuel Favre à la scénographie, c'est-à-dire la personne qui a pu organiser l'espace scénique, et ensemble, ils ont pensé cette espèce de fracas d'étoiles immense, une grosse structure noire sur roulette traversée par un escalier. Oui, on comprend rien, c'est dur à décrire, mais mettez-vous à ma place. Il aurait pu mettre un banc et dire « gna gna gna, je suis minimaliste ». Ça aurait été plus facile à raconter, mais ça aurait été chiant à voir, donc c'est vous qui voyez.
Je voulais travailler sur une scénographie qui soit à la fois matérielle et immatérielle. Parce que la question du futur, en fait, elle s'est posée à un moment donné. Je me suis dit « qu'est-ce qu'on va ?» Parce que c'est une œuvre futuriste, enfin une fiction qui se passe dans le futur, etc. Donc j'étais là, ok, mais moi je vais inventer une espèce de monde qui va se passer en 2500, je sais pas quoi, alors qu'en fait je vais le penser à partir d'aujourd'hui, parce qu'on pense toujours le futur par rapport au présent dans lequel on est, etc. Et dans 5 ans ça va être cheap, et comment faire ? Donc je me suis dit non, j'oublie complètement cette idée du futur, je vais travailler sur la question de la lumière. Parce que pour moi, Starmania, c'est une œuvre qui parle du combat entre les forces, entre guillemets, obscures, mais celles... pas des méchants, même s'il y a aussi ça, mais surtout les forces de la dépression, de la mélancolie, de la langueur, de l'ennui, les forces de la vacuité, du manque de sens à son existence. Donc ces forces-là qui sont qu'on connaît très bien, tous et toutes plus ou moins, mais qui sont réels et qui sont rarement posés sur les plateaux, de mal de vivre, quoi. Face, cette force-là sombre, face à la force de la lumière, du désir d'être reconnu, du désir d'être star, du désir d'avoir un sens à sa vie, etc. Scénographiquement, ça a été compliqué, parce que j'ai d'abord posé la cage de lumière, avec cette lumière des quatre côtés, qui est un grand rêve que j'avais depuis Thieste. Je voulais absolument faire de la lumière sur les quatre côtés, voir ce que ça donnait, et je crois que je suis au tout début d'une exploration. Et une fois que j'avais posé cette cage de lumière qui enferme les personnages, trouver le matériel, ça a été complexe, et c'est là où Emmanuel Favre, la scénographe, est arrivé, donc il y a à peine un an, pour m'aider. Enfin, c'est là où je l'ai sollicité pour m'aider à finaliser le projet de scénographie. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et il y a encore un grand élément qui est cette espèce de ville, une espèce de concrétion de monopolis d'une ville et en même temps de bloc monolithique et en même temps fiché d'une étoile qui ou s'est craché ou bien implose de l'intérieur. Bref, c'est aussi les lames de rasoir, c'est aussi les branches d'une étoile, c'est la Starmania, quoi.
Là, pour le coup, on a des écrans partout, sur des grosses colonnes mobiles, sur des petits cubes qui servent de table, de chaises et de cubes. Bon. Et on a des trucs qui explosent, de la fumée, une voiture, des tigres, 37 sosies de Vladimir Poutine qui tapent à Harlem Shake. Quoi, vous l'avez pas vu, la pièce, de toute façon, on s'en fout. Tout ça, en vrai, c'est possible aussi dans un théâtre public. Hein. Les décors zinzin sur roues qui se reconfigurent en permanence avec des faisceaux de lumière qui mitraillent la scène. Tout ça, c'était déjà dans Henri VI et Richard III, son adaptation de Shakespeare de 24 heures. Mais il y avait d'autres choses qui n'étaient pas possibles dans le théâtre public.
Là où il y a une possibilité que je n'avais pas réalisée, c'est que quand on tourne, parce que Starmania est prévu de tourner dans les Zéniths, et dans les Zéniths, il n'y a rien en fait. C'est un hangar, c'est vide. Et donc la scène sur laquelle jouent les chanteurs, marchent les chanteurs, etc., c'est notre scène. Donc à partir du moment où j'ai pu, moi, amener ma scène et la dessiner comme j'en avais envie, ça change la donne. Par exemple, je ne pourrais pas faire ce spectacle dans un théâtre public qui a déjà une scène. Je suis obligé de la jouer dans un hangar, de toute façon. Et là, la scène, du coup, elle est un peu truquée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la scène, il y a des éléments techniques. Il y a une double tournette, il y a une cinquantaine de projecteurs dans des trappes qui surgissent de la scène, qui en sortent et qui redescendent dans la scène. Donc c'est le plateau même est un outil scénographique que j'ai pu... entre guillemets, déployer, ce que je ne peux pas faire dans un théâtre où il y aurait déjà une scène. Donc ça, c'était une possibilité. Après, il y a la question de la masse et la force de 4000 spectateurs, contrairement à nos salles de théâtre public qui sont, entre guillemets, plus, et peut-être plus intimes et plus aussi avec plein de qualités. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand on est 200 dans une salle ou même 100 ou même 1000. Enfin, là, c'est 4000, c'est encore autre chose. C'est une autre énergie, c'est une autre émotion, c'est un autre type de spectacle.
Et puis au-delà de cette distinction privée-publique, Starmania quand même, ça joue pas tous les jours. On n'en a pas tous les jours sur scène des performeurs et performeuses si bourrés de talent. Je pense notamment à Jeanne Jérôme, Alex Montembeau ou Adrien Fruit. Je pense aussi à William Cloutier qui assurait le soir où j'ai vu la pièce la doublure de Johnny Roquefort, car oui, un personnage porte le nom d'un fromage. Et comme dans tous les discours interminables au César, je vais aussi citer le nom des gens que vous connaissez peut-être pas, et puis bah c'est tant pis pour vous, mais qui ont fait un travail zinzin. Donc il y a Nicolas Ghesquière au costume, Sidi Larbi-Cherkaoui pour les chorégraphies. Ah, et attendez, parce qu'il fallait que j'émette une critique avant de partir, parce que sinon je perds mon statut de journaliste. Enfin, c'est un truc chiant avec la commission de la carte de presse, mais bref, à un moment, par exemple, y a une ampoule qui fonctionnait pas. Voilà pour les critiques. Non, en vrai, il y a une critique que j'ai quand même, c'est que c'est un petit peu chiant quand on est loin parce que on profite un peu moins du spectacle. Mais vous connaissez la considération des théâtres privés pour les pauvres? Aucune. Enfin, pour tout ce qui est privé en général, en fait, il vaut mieux être riche, quoi. Sur ces belles paroles, je vous abandonne, vous qui avez écouté le deuxième épisode de Dramatis, le podcast théâtre de Mademoiselle qui, tous les 15 jours, vous donne une nouvelle raison de vous comporter comme une personne âgée en allant voir une pièce et en aimant ça. Je suis Mathis Grosso, responsable des podcasts chez Mademoiselle et Drama Queen partout ailleurs. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour me disputer quand je parle trop vite, m'expliquer que j'ai rien compris aux pièces, ou même me suggérer des trucs à voir. Prenez soin de vous, dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Si vous voulez en apprendre plus sur les différences entre théâtre privé et théâtre public, si vous voulez une anecdote un peu marrante entre Sacha Guitry et Claude Monet, ou encore si vous voulez savoir ce que c'est que la patte de Thomas Joly sur les différentes œuvres et la façon dont il réfléchit justement à ses mises en scène, et vous pouvez en savoir plus en écoutant l'interview en entier. C'est une interview qui dure 20 minutes et vous pouvez l'écouter dès mercredi prochain sur le flux Dramatis. Et le mercredi suivant, il y a un nouvel épisode. Voilà, c'est comme ça, il y a un nouveau truc tous les mercredis, c'est super, c'est chouette.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.